Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous propose de lire un premier extrait du livre « En même temps, toute la terre et tout le ciel » de Ruth Ozeki. Il s'agit d'un roman qui se passe à la fois à Tokyo et au Canada. Lycéenne déracinée, Nao se confie. Ses camarades qui la harcèlent, sa famille, une nonne zen, féministe pour aïeul, un grand-oncle fantôme, un père suicidaire, et puis la tragédie. Au Canada, Ruth découvre le journal échoué sur une plage. Ces mots lui sont destinés, mais comment sauver Nao ? Magico adore que je lui décrive la vie moderne en détail. Elle ne sort pas beaucoup vu qu'elle vit dans un temple à la montagne au milieu de nulle part et qu'elle a renoncé au monde. En plus, elle a aussi 104 ans. Je n'arrête pas de répéter son âge, mais en fait, ce n'est qu'une supposition. Son âge, on ne le connaît pas avec précision. Et Jiko dit qu'elle ne s'en souvient pas. Effectivement, quand vous lui reposez la question, elle dit « Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas compté ». Si vous lui demandez la date de son anniversaire, eh bien, je ne me rappelle pas vraiment être née. Si vous insistez et que vous lui demandez depuis combien de temps elle est en vie, j'ai toujours été ici, d'aussi loin que je m'en souvienne. Sans blague, mamie. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y a personne de plus âgé qu'elle pour s'en souvenir, et comme le registre d'état civil de notre famille a brûlé dans le bombardement des bureaux de l'administration pendant la Seconde Guerre mondiale, on est bien obligé de la croire sur parole. Ça fait maintenant quelques années qu'elle est bloquée sur ce nombre, 104. Alors nous, on est restés là-dessus aussi. Comme je le disais, Magico aime beaucoup les détails. Elle adore que je lui parle des petits sons, des odeurs, des couleurs, des lumières, des panneaux publicitaires, des gens, de la mode, des gros titres des journaux, tout ce qui fait de Tokyo cet océan de couleurs. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude d'observer et de mémoriser. Je lui raconte absolument tout, les dernières tendances, mais aussi les articles que j'ai pu lire sur des lycéennes retrouvées mortes, violées puis étouffées par des sacs plastiques dans des love hotels. Vous pouvez lui raconter ce genre de choses à mamie, ça ne la dérange pas. Je ne dis pas que ça l'amuse. Elle n'a rien d'une henta, mais elle comprend que parfois, il arrive vraiment des sales trucs. Alors elle reste assise là, à écouter, en hochant la tête et en comptant les perles de son zoukou. Elle récite des prières pour ces pauvres lycéennes, pour les pervers, pour tous les êtres qui souffrent dans le monde. Elle est nonne, c'est son boulot. Des fois, je vous jure, j'ai l'impression que si elle est encore en vie, c'est à cause de tous ces gens dont je lui parle et pour lesquels elle doit prier. Une fois, je lui ai demandé pourquoi elle aimait bien ces histoires. Et elle m'a expliqué qu'au moment d'entrer dans les ordres, elle s'était rasé la tête et avait prêté serment pour devenir Bosatsu. L'un de ses vœux était de sauver tout être, ce qui veut dire qu'elle renonçait à s'éveiller tant que tous les êtres de ce monde ne l'étaient pas d'abord. C'est un peu comme laisser tout le monde passer avant vous pour entrer dans l'ascenseur. Quand vous calculez le nombre d'êtres sur Terre à chaque instant, que vous ajoutez ceux qui naissent à chaque seconde et enlevez ceux qui meurent, pas que les êtres humains d'ailleurs, mais toutes les formes de vie, animaux, amibes, bactéries, virus et même plantes, bref, tout ce qui a déjà vécu et vivra un jour, sans parler des espèces éteintes, eh bien, vous comprenez tout de suite que l'éveil prendra un sacré bout de temps. Et puis, que se passe-t-il si l'ascenseur est plein et que les portes se referment sans que vous ayez pu entrer ? J'ai posé la question à grand-mère. Elle a frotté son crâne luisant avant de dire « Sodesune, cet ascenseur-là est très grand. »« Mais mamie, ça va te prendre une éternité. » Eh bien, c'est pour cette raison qu'il nous faut redoubler d'efforts. Comment ça, nous ? Nous ? Bien sûr, ma chérie, tu dois m'aider ? Pas question, n'y pense même pas. Je n'ai rien à voir avec tes trucs de bosatsu, moi. Elle s'est contentée de faire un petit bruit de bouche et de partir en faisant cliqueter les perles de son juzu. À la manière dont elle m'a regardée derrière ses lunettes à grosse monture noire, je me suis demandé si à cet instant précis, elle n'était pas aussi en train de prier pour moi. Mais je m'en fichais. En fait, ça me donnait l'impression d'être en sécurité, que quoi qu'il arrive, mamie ferait toujours en sorte que je puisse entrer dans l'ascenseur. Vous savez quoi ? À cette seconde, en écrivant ça, je viens de me rendre compte de quelque chose. Je ne lui ai jamais demandé où allait cet ascenseur. Je vais lui envoyer un texto. Je vous dirai la réponse. Bon, allez, maintenant je vais vraiment vous raconter la vie fascinante de Yasutani Jiko, la célèbre romancière anarchiste, féministe, devenue nonne bouddhiste sous l'ère Taisho. Mais d'abord, je vais vous dire une chose à propos du livre que vous tenez entre les mains. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'a pas grand-chose à voir avec un journal intime type d'écolière. Couverture rose brillante avec des gros animaux pastels dessus, cadenas en forme de cœur et petites clés dorées. Et quand vous l'avez ramassé, il y a peu de chances que vous vous soyez dit « Oh, le joli journal intime !» Écrit par une écolière japonaise, comme c'est intéressant, il faut absolument que je lise ça. Non, parce que quand vous l'avez ramassé, vous pensiez qu'il s'agissait du chef-d'œuvre de la littérature intitulé « À la recherche du temps perdu » du célèbre écrivain français Marcel Proust, et non de l'insignifiant journal d'une sombre inconnue dénommée Nao Yasutani. Alors voilà, ça confirme le proverbe. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un livre truqué. Je l'ai acheté tel quel, prêt à l'emploi, dans une petite boutique de Harajuku, où ils vendent des modèles uniques et des gadgets artisanaux, genre écharpe au crochet, housse de téléphone portable en macramé, menottes en perles et d'autres trucs cool comme ça. En ce moment, au Japon, c'est la mode du fait main. Tout le monde se met au tricot, au crochet, aux perles ou au pepagura. Mais comme je ne suis pas très habile, je suis obligée d'acheter des babioles toutes faites si je veux rester tendance. La fille qui fait ses journaux est une créatrice hyper connue. Elle rachète des cartons entiers de vieux livres partout dans le monde, puis elle découpe soigneusement chaque page pour la remplacer par du papier vierge. Elle est tellement douée qu'on ne remarque même pas le truc. On pourrait presque penser que les lettres ont tout simplement glissé de la page par terre comme un tas de fourmis mortes. Je traversais une mauvaise passe à l'époque. J'ai acheté ce journal un jour où je me sentais particulièrement mal. J'avais décidé de sécher les cours et d'aller faire un peu de shopping à Harajuku pour me remonter le moral. Lorsque j'ai vu ces vieux bouquins sur une étagère de la boutique, J'ai cru qu'il faisait partie du décor, et je n'y ai pas vraiment prêté attention. Mais quand la vendeuse m'a montré le truc, je me suis précipitée dessus pour en acheter un. C'était pas donné, mais j'aimais trop la sensation de la vieille toile sous les doigts, et je savais déjà que ce serait trop bien d'écrire dedans, comme dans un vrai livre, un livre déjà publié. Mais le mieux dans tout ça, c'était quand même de savoir que mes secrets resteraient bien gardés. Je ne sais pas s'il vous arrive, à vous aussi, qu'on vous frappe ou que certaines personnes vous volent des choses pour les utiliser ensuite contre vous. Si vous avez déjà rencontré ce problème, vous comprendrez en quoi ce livre était une parade de génie. Mes stupides camarades de classe étaient tout à fait capables de me piquer mon journal, l'air de rien, et de le balancer sur Internet ou un truc du genre. Mais qui irait piquer un vieux bouquin intitulé « À la recherche du temps perdu » hein ? Ces connards auraient juste pensé qu'il s'agissait d'un livre pour les joukous, c'est tout. Ils n'auraient même pas eu idée de ce qu'il représente. En fait, je dois dire que moi non plus, puisque ma connaissance de la langue française est inexistante. Il y avait le choix entre plusieurs titres, certains en anglais, « Great Expectation » ou « Gulliver's Travels », par exemple, ce qui aurait pu faire l'affaire, mais j'ai trouvé ça plus marrant de prendre un titre que je ne comprenais pas. Le fait d'en connaître le sens aurait pu faire obstacle à ma créativité. Il y en avait aussi dans d'autres langues, comme l'allemand, le russe et même le chinois. Mais finalement, j'ai choisi « À la recherche du temps perdu » en me disant que ça devait être du français. C'est cool ça, le français. Ça fait tout de suite classe. En plus, ce livre-là avait pile la bonne taille pour entrer dans mon sac à main.
Yuya kekoya keno akatombo oware temita no wa itsu no hika yama no hatake no kura o miyo kokayo ni tsunda wa maboro hika yuya keko yake no akatombo tomate iru yo sao no saki.
Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots, tout attaché, @gmail.com. À bientôt.
Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.